Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine, je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Steph.
Pour parler du film Les Anges de la Nuit. Alors bon, on appelle ça Les Anges de la Nuit. Faut dire que le titre français est un peu space, quoi. Un peu
ça va,
basique, moi je trouve.
Ça ne me dérange pas parce que ça, pour moi, ça renvoie... les anges aux figures sales, donc à toute une tradition du film mafieux vaguement irlandais des années 30, donc c'est pas un problème. Et je pense d'ailleurs que c'était peut-être même à l'esprit du distributeur quand il a choisi ce titre.
C'est possible. Ouais.
Et State of Grace, effectivement, c'est un titre...
facile à traduire.
Oui, mais pour le public français, pas assez explicite. Le public français a toujours eu besoin de... Déjà, Les Anges de la Nuit, on est à la limite du poétique, et ça, en général, ils aiment pas.
De Phil Joannou, auquel on avait consacré déjà un podcast avec 3 heures l'art du crime.
Ouais, exactement.
Pas le podcast le plus écouté, donc on vous engage quand même à aller le voir.
Parce qu'on essaie de vous parler des bons films et que vous ne connaissez pas, donc faites l'effort quand même des fois de cliquer sur des trucs sans savoir de quoi il s'agit.
Vous allez vous faire engueuler. 3 heures l'art du crime, c'est un film qui n'est pas très très connu, donc voilà.
Précisément, oui.
Et là, c'est un petit peu plus connu, même si je me rends compte qu'Alain Mercier à la technique ne l'a pas vu.
Non, ce qui est fascinant avec ce film-là, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est un film qui reste largement méconnu, y compris dans des cercles entre guillemets cinéphiles ou cinéphages, alors qu'il y a un casting de malade. Donc on résume un petit peu, on a Sean Penn, on a Gary Oldman, on a Ed Harris, on a Wright, Vitarelli,
Joe Vitarelli, c'était son premier film.
Il y a Ennio Morricone à la musique, Jordan Cronenweth, donc le chef opérateur de légende, notamment responsable d'un petit film qui s'appelait Blade Runner, dont c'est pratiquement le dernier truc. Moi, ce qui encore aujourd'hui m'étonne, c'est comment Phil Joannou a réussi à monter en fait une équipe pareille, parce que Cronenweth, par exemple. De ce que j'avais compris à la fin de ses jours, le mec il était très cher quoi. David Fincher avait pu se l'offrir parce que Fincher évidemment il était en extase devant un mec comme ça. Il s'était offert sur le clip de Michael Jackson With It, mais c'était un clip de Michael Jackson, il y avait du pognon derrière quoi. Alors que State of Grace c'est une production Orion, donc entre guillemets semi-indépendante, il n'y a pas des milliers des cents.
Non, c'est pas un énorme film, ça c'est clair. C'est aussi un film, alors il faut peut-être le pitcher, je t'en prie Rafik, j'aime bien en lancer mes...
Alors le pitch, c'est donc l'histoire d'un flic undercover, donc joué par Sean Penn. D'ailleurs on a oublié de citer au casting John Turturro aussi,
oui, bien sûr.
Qui travaille donc avec ce fameux John Turturro, et il est envoyé en fait dans le quartier de son enfance, retrouver en fait ses amis d'enfance pour les infiltrer, parce que ce sont des gangsters irlandais, et donc c'est le pitch, je dirais presque typique du mec qui va être tiraillé évidemment parce que il va retrouver ses sources en fait de ce qu'il est profondément, et au bout d'un moment il saura plus s'il est un flic ou s'il est ce jeune Irlandais qui a grandi parmi ces gens-là quoi, et il devient un véritable Judas pardon, et s'enfonce en fait dans je dirais entre guillemets par amour en fait pour les siens dans le crime et le drame, donc ça ne peut pas voilà, genre de film qui ne peut pas a priori trop bien se terminer,
ce qui n'est pas le cas d'ailleurs,
ce qui n'est pas tout à fait le cas
voilà. Bon évidemment on va spoiler un petit peu mais on vous encourage quand même à voir le film parce qu'il est sorti en Blu-ray chez nous, donc c'est quand même visible maintenant quoi.
Moi, c'est un film que j'ai vraiment découvert dans les conditions idéales, parce que en fait, je l'ai découvert au marché du film à Cannes, mon tout premier festival de Cannes, avec Nicolas Kézik, qui peut-être nous écoute en ce moment. Salut Nicolas. Ça fait partie de mes grandes découvertes, quoi. Tu sais, tu rentres dans une salle, tu sais pas du tout ce que tu vas te taper. Ouais. Déjà le générique d'ouverture, on se regardait Nicolas et moi en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est quoi tous ces noms qui défilent, et puis surtout le film, enfin voilà, il a une tenue exceptionnelle, surtout je trouve, enfin c'est pour les gens qui comme moi sont un peu fétichistes de l'image, c'est un des derniers grands films new-yorkais je trouve, c'est-à-dire que une des plus grandes stars de la ville, c'est vraiment une des plus grandes stars du film, c'est vraiment la ville de New York.
Je suis d'accord.
Si vous voulez avoir des travelling à ras du sol sur un mec qui vient de sortir de sa bagnole à côté du métro aérien et les bouches d'égout fumantes, enfin c'est le film à voir quoi.
Surtout que en fait c'est un film qui passe dans chaque décor naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de décor, ça se passe à Hell's Kitchen,
ouais,
qui a été renommé, je crois, et d'ailleurs le film en parle.
Il y a des questions qui s'appellent comme ça, le film d'ailleurs, ouais. Hell's Kitchen, ouais.
Et en fait, le quartier en soi a été renommé, maintenant ça s'appelle Clinton, mais ils en parlent en fait dans le film, puisque c'est l'un, on va dire, des sujets vagues du film, c'est la gentrification, quoi, de New York, c'est l'une des thématiques.
Et en thématique, il y a la thématique religieuse aussi, parce que Hell's Kitchen, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est les cuisines de l'enfer. Et le film s'appelle State of Grace, donc la question de la rédemption, elle est centrale.
Évidemment. Et du coup, en fait, il y a chaque scène, en fait, finalement, importante va se dérouler soit dans une église, soit sur les docks, en fait, au bout de Manhattan, soit, en fait, dans le quartier, soit dans les pubs. Donc, du coup, t'es en train de voyager dans la ville avec les personnages.
Ouais,
quoi.
Tout à fait.
Ça, c'est assez impressionnant. Et évidemment, c'est mis en lumière.
C'est mis en lumière encore une fois, par le chef-op de Blade Runner et au-delà du réel. Donc, un mec qui, a priori, s'est filmé un morceau de pierre, quoi.
Alors la question qui se pose, c'est quand même de savoir, même si je m'avance peut-être un petit peu parce qu'on va parler quand même du film en détail, de pourquoi justement se filmer avec ce casting-là, qui est quand même, on parle quand même de trois acteurs hyper intenses, hein, je veux dire, juste pour prendre ceux qui sont sur l'affiche, hein, c'est-à-dire Sean Penn d'un côté, Gary Oldman de l'autre et Ed Harris qui sortait à l'époque d'Abyss, quoi.
Ouais.
Comment en fait ça se fait
que... Qui a failli pas faire le film à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il était encore blessé physiquement du tournage compliqué d'Abyss.
Et il a remplacé au pied levé Bill Pullman.
Ouais, tout à fait. Bah en fait, Bill Pullman.
Ce qui là en fait aurait été, alors là, pour le coup, tu ça aurait juste.
C'est sûr qu'en termes d'intensité,
rééquilibrer le film, quoi.
C'est pas la même chose, mais je crois que le problème de Bill Pullman, c'est qu'en fait, il n'était pas assez physique justement, parce que mine de rien, alors moi, les scènes que je préfère avec Ed Harris sont des scènes généralement au restaurant, des scènes entre guillemets calmes, quoi. C'est vraiment tous les moments où il essaie de manipuler les gens et qu'il y parvient pas. C'est probablement le plus loser des personnages, hein, d'ailleurs. On précise pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc. Sean Penn, une fois que ça s'infiltre via le personnage de Gary Oldman, qui est son ancien ami d'enfance, et Gary Oldman est le petit frère de Ed Harris, qui entre-temps est devenu le chef de gang local, mais un chef de gang galérien, hein, vraiment loser, quoi, qui est obsédé
de monter, voilà, il essaye de monter une
association avec les Italiens, et qui donc veut faire bonne figure, et qui a du mal à gérer ses hommes, qui en fait sont des Irlandais un peu irlandais, quoi, donc tête brûlée, quoi.
Ouais, qui ont le sang chaud. Et le truc, c'est que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que ce soit le personnage le plus loser, parce que techniquement, quand tu regardes le film, c'est censé être Gary Oldman.
Oui.
C'est censé être le personnage qui a le cheveu gras dégueulasse,
oui.
qui dort dans ses fringues depuis des jours et des jours. Il le dit d'ailleurs dans le film, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, c'est lui le foireux, en fait. Mais sauf que c'est celui qui a un code d'honneur que Ed Harris n'a pas, quoi, en fait.
C'est celui qui a une forme de rédemption. C'est-à-dire qu'il y a c'est un taré, clairement, le personnage de Gary Oldman, mais, tu sens un truc horriblement blessé, on va dire, quoi, qui s'est jamais une blessure qui s'est jamais refermée, alors que le personnage de Harris, il a littéralement vendu son âme, quoi. On spoil, hein, mais bon, comme dans tout drame qui se respecte, à un moment donné, il va y avoir une question de fratricide. Et Harris va se poser la question de savoir s'il bute ou pas ce frère qu'il n'arrive pas à contrôler. Et évidemment, il ne fait aucun doute pour le public qu'on est complètement du côté du personnage de Gary Oldman. Quand il dit qu'il dort dans ses fringues, mais le fait est qu'il faut aussi préciser en termes d'intensité de jeu que c'était bel et bien le cas de Gary Oldman sur le plateau, quoi.
Mais c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est comment se fait-il qu'un film... En fait, moi je trouve d'une vraie qualité, puisse finalement, 30 ans après, un peu passer inaperçu. Ouais. quand tu te retrouves avec trois acteurs qui sont très intenses, qui sont pour le coup vraiment extrêmement bien utilisés. Voilà,
dont entre temps, il y en a deux qui ont coursé l'Oscar, il y en a trois qui ont été nominés aux Oscars. Enfin, oui, effectivement, c'est encore plus un casting fabuleux aujourd'hui que ça ne l'était en 90. La raison, elle est toute simple, hein, c'est que le film est sorti en même temps que Les Affranchis de Scorsese, qui a été un vrai carton aux États-Unis, moins en France, mais aux États-Unis c'était un vrai carton et qui a complètement fait de l'ombre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas a priori de place pour deux films de mafieux la même semaine, quoi. Sauf que comme c'est une production justement indépendante avec plusieurs boîtes de prod et tout ça, alors que Les Affranchis c'est tenu par une major, un studio, bah Les Affranchis, sa carrière ensuite, elle a été assurée par sa présence régulière dans le catalogue de studio, alors que le catalogue Orion, il a été dépecé, les films se sont retrouvés chez un tel, c'est sorti de façon anarchique en DVD, en laserdisc et compagnie, et donc du coup il n'y a pas de suivi en fait sur ces films là et je pense que ça joue aussi dans la vie à long terme de ces productions. Le catalogue Orion, quand on regarde aujourd'hui tout ce qu'ils ont produit, à l'exception de films comme Amadeus et autres qui sont, comment dire, que par le fait qu'ils ont été justement oscarisés, sont restés, en fait c'est que des films à problème en termes d'accessibilité, tu vois, même La Chair et le Sang, c'est pendant un moment, voilà, tu vois, c'était difficile.
Mais La Chair et le Sang, on va dire que t'as des vedettes, enfin tu vois, Rutger Hauer, qui bon, voilà, évidemment on adore Rutger Hauer, mais Rutger Hauer c'était un acteur de série B après, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui s'est un peu perdu là-dedans, et du coup, en gros, bon, ça peut, alors que là, Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, quoi. Enfin, on parle quand même d'acteurs qui, ouais, comme tu l'as dit, en fait, qui sont vraiment des acteurs
et
appréciés.
Bon, certains donnent une performance dont ils sont encore aujourd'hui plutôt fiers. Enfin, je crois que, Ed Harris considère que c'est le tournage le plus difficile qu'il ait eu.
Alors que le mec a fait Abyss.
mais en termes psychologiques, enfin, il a dit que
il a eu du mal à se sortir du
personnage de Frank l'a suivi pendant des années, quoi.
Bah, en fait, ouais, c'est-à-dire que voilà. Précisons en fait, en gros, que voilà, il y a une vraie facture de tragédie grecque en fait dans le film. C'est assez important. C'est même d'ailleurs ce qui pourrait expliquer, par exemple, moi je sais qu'en revoyant le film comme ça, je me suis dit, tiens, mais c'est étonnant qu'ils annoncent la couleur d'entrée de jeu sur le personnage de Sean Penn. C'est-à-dire, je pense que ça aurait pu gagner à ce que, pas que ça soit une révélation, mais au bout de peut-être 40 minutes de film, en gros, hein, que c'est un flic infiltré, quoi. Et parce que la scène d'ouverture, on va dire, n'est pas, tu vois, c'est une scène assez classique, finalement, la scène où, justement, ils essayent de mettre en place une espèce de faire, en fait, une street cred, en fait, pour le personnage.
Une credibility, en fait, en faisant en sorte que Sean Penn tue de flic, en tout cas, fasse semblant de tuer de flic avec des balles à blanc devant témoins, de façon à ce qu'on parle de lui comme étant un criminel et que, du coup, il intègre ce monde criminel plus simplement. Moi, je pense que c'est important parce que il y a un bon quart d'heure, voire 20 minutes qui sont consacrés à la découverte de ce monde des gangsters irlandais. Je pense qu'on serait très mal à l'aise si on n'avait pas cette information. Il y a des scènes quand même glauque, la séquence où il ouvre le frigo et il lui montre les mains congelées, qui leur servent à créer de fausses empreintes sur les flingues et tout ça, et ils se mettent à jouer avec ses mains de cadavre comme des gamins. Si on n'était pas dans les basques de Sean Penn, qui est dans une situation donc de flic, quoi, qui assiste à un truc criminel, on se dirait, c'est qui ces connards, quoi?
Des gangsters.
Bah oui, clairement.
Non, mais à la limite, c'est quand même une figure hyper, cinématographique. Oui. Donc, quelque part, ça m'aurait pas choqué.
Le fait est que toute cette partie-là, pour moi, on a besoin d'être dans les basques d'un infiltré, c'est-à-dire de quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'un étranger, qui découvre ce monde et qui doit présenter un certain visage, quoi. Donc, quand on voit Sean Penn rigoler dans cette scène, on sait qu'au fond de lui, il est mal à l'aise.
Ouais. Mais j'allais dire, en fait, en même temps, c'est un infiltré qui vient de ce monde-là aussi.
Aussi,
c'est-à-dire que, donc, en fait, je sais pas si le... Enfin bon, en tout cas, moi, c'est un des points où je me suis dit, ça, ils auraient pu jouer un petit peu avec la révélation, entre guillemets. Et je pense qu'en fait, c'est un truc qui aurait pu aussi appeler le spectateur. C'est-à-dire lui donner un espèce de « Ah, tiens, j'avais pas compris ça, et du coup, ça me fait revoir un petit peu l'entrée en matière d'un œil différent. » Là, c'est très direct. Mais le film est très direct. Hein. C'est clair qu'il a une narration qui est finalement assez épurée dans sa façon de présenter tous les enjeux. Oui. Tu vois, c'est littéral. Le personnage de Robin Wright, qui est en fait la sœur de Ed Harris et de Gary Oldman, c'est un personnage, en fait, on te dit, elle est allée en haut, c'est-à-dire en fait quand on te présente la ville, en fait on t'explique elle est déjà dans la gentrification, c'est-à-dire qu'elle a décidé de s'extraire de son milieu,
de fuir,
et en fait en gros elle travaille dans un hôtel de riches, mm-hmm. elle, voilà, donc en fait elle veut vraiment sortir de sa condition initiale, et en gros le premier truc que t'apprends sur elle, c'est elle vit uptown quoi, mm-hmm. uptown c'est vraiment en fait chez les bourges quoi, mm-hmm. et tout est, on va dire presque, c'est pas au stabilo, c'est pas vrai, parce qu'en fait encore une fois le film est complètement incarné. Mais par contre, sur le papier, il y a pas de d'ambivalence en fait là-dessus, c'est-à-dire que quand Ed Harris, la relation que Ed Harris a avec sa sœur par exemple, où elle le snob littéralement, il l'appelle la reine des glaces quoi, oui. Tu vois, donc en fait tout ça c'est très appuyé. Un réalisateur, j'ai envie de dire, ou en tout cas des acteurs moins impliqués, en fait, auraient probablement fait un film générique.
Non, mais ça correspond aussi à la mentalité, pour le coup, irlandaise des personnages, qui est de rentrer dans l'art, quoi. C'est-à-dire que quand Ed Harris essaie justement de l'embobiner sur un mode nostalgique, en mode « ma petite sœur, pourquoi t'es partie ?», elle lui répond clairement « je suis pas partie, je t'ai fui ». Tu vois, donc ça souligne le personnage, mais ça souligne aussi leur origine, quoi. On est dans un monde où on s'envoie des trucs à la tronche. Non, je pense que c'est important. Par contre, moi, le problème que j'ai avec le film, c'est un film que j'ai envie de défendre, donc je vais pas dire aux gens que c'est un film à problème. En fait, il a quand même quelques problèmes.
Les pros d'Orion, comme tu l'as dit.
C'était une production. Je crois que le premier montage faisait plus de 3 heures. Et c'est vrai que c'est un film qui a quand même été conçu comme une saga. Du coup, ça a nécessité une très très grosse réduction de temps. Et je trouve pas que le montage séquentiel soit très efficace. Ça veut dire que le film est bien monté en termes de dynamique, d'action, etc., et y compris les séquences profondes entre les personnages sont très bien montées, mais on passe d'une séquence à l'autre un petit peu de façon artificielle. C'est-à-dire, on termine un truc et on passe à la scène suivante. Et il n'y a pas un enchaînement où on se dit ça se déroule... organiquement, on va dire. Donc ça, c'est pour moi le seul et vrai point faible du film, c'est son montage séquentiel.
Moi, dans les scènes, parce que tu parles là, parce que le film fait 2h15, dans les scènes qui manquent, t'as notamment, en fait, en gros, d'après ce que j'ai compris, des scènes entre Gary Oldman et Ed Harris où ils vont justement se débarrasser de gangsters irlandais. Ouais. Et qu'en fait, apparemment, c'était des scènes qui rapprochaient les deux personnages, qui les montraient la façon dont ils fonctionnent ensemble et pourquoi ils sont organiquement liés, en fait, dans leur empire du crime, quoi. Et c'est vrai que, bon, moi, je trouve pas que ça manque particulièrement, en fait, quand tu regardes dans le film, par rapport à la relation entre les deux persos.
Moi non plus, j'ai pas de manque. Mais c'est
ça aurait peut-être appuyé la trahison finale, on va dire, mais ça aurait peut-être pu donner encore plus de corps, surtout si on part du principe que, en fait, parce que c'est ça, en fait, que moi je trouve fonctionne extrêmement bien dans le film, c'est chaque scène dont tu parles à part, en fait, prise à part, elles sont extrêmement habitées. Je comprends ce que tu veux dire, en fait, même en termes d'écriture, ouais, tu vois.
C'est-à-dire que quand je parle de montage séquentiel, ça veut dire que ce qui manque, c'est les conjonctions de coordination. Il n'y a pas de donc et à ce moment. Pendant ce temps, on n'a pas cette sensation dans le film.
Quelque chose de l'ordre de la chronique.
C'est ça.
On vit dans ce monde-là.
Après, il se passe ça. Et bon, sur 2h15, ça peut poser un problème d'attention. Moi, je sais que la première fois, j'ai été fasciné par la mise en scène et la qualité photographique du film, mais j'ai pas été fasciné par sa narration. Et j'avais pas. D'ailleurs, il y a des choses que j'avais pas compris de ce fait-là. Il y a des moments où j'ai été un peu distrait. Si on prend un film comme Les Affranchis, c'est l'extrême inverse.
Oui,
son montage séquentiel, il est parfait.
Oui, mais ça, c'est pensé pour. Enfin, c'est vraiment pensé pour. Là, le truc, en fait, et puis on parle quand même de. Voilà, sans être.
Quand t'es comparé à Scorsese, pas trop planté, quand même.
Voilà, mais c'est surtout. Et même inversement, Fitz Joannou n'est pas Scorsese non plus, quoi. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que c'est aussi le truc qu'il faut peut-être préciser aux gens, c'est qu'il faut pas s'attendre à un film de gangster. Effectivement, c'est à la croisée entre le film de gangster, le film noir, la dramaturgie des pièces de théâtre, en fait, new-yorkaise, parce que ça aussi, c'est un truc qui est quand même hyper important, faut le préciser, quoi. Les gens qui ont écrit le film, alors Dennis McIntyre, qui était un dramaturge aussi, qui a écrit des pièces de théâtre, qui est mort très très peu de temps après la sortie film, voire même, je crois, au moment de la sortie du film. Quoi.
Apparemment, il y a eu une grosse réécriture d'un autre dramaturge qui est David Rabe.
David Rabe, qui est un autre dramaturge, voilà, qui bosse beaucoup avec Sean Penn, qui a écrit notamment Casualties of War, en fait, outrage de Palma. Et en gros, tu sens dans l'écriture des personnages et tu sens dans l'écriture des séquences et même des fois dans des endroits où tu te dis mais c'est pas une scène, en fait ça pourrait totalement être une scène de comment dire, de pièce de théâtre. Il y a par exemple, il y a la mort d'un personnage assez rapidement dans le film, au bout d'une quarantaine de minutes, qui est le personnage de John C. Reilly, qui est tout jeune et qui a un petit rôle, quoi, et qui est déjà, tu le remarques en fait, parce que c'est pareil, moi je trouve John C. Reilly, c'est un super acteur, quoi.
Il joue la victime idéale.
Ouais, voilà, et qui joue le petit con, en fait, tu vois.
Le copain qui a jamais eu de bol, celui qu'on a toujours pris sous son épaule parce que le monde lui tombe sur la gueule et que t'as envie de protéger, mais qu'en même temps attire le malheur, et là en l'occurrence, le malheur, c'est qu'il va se faire littéralement buter, quoi, voilà. par le. Le personnage d'Ed Harris, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, dans une scène, apparemment, où, parce que quand tu parles d'intensité, enfin, j'ai appris ça en faisant quelques recherches sur le film, apparemment, Ed Harris se pointait chaque fois avec un couteau. Parce qu'il lui ouvre la gorge, tu vois. Et un vrai couteau sur le plateau. Et en fait, Joannou était obligé de lui enlever le couteau. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et en fait, apparemment, à des moments, il revenait, du coup, comme il avait plus son couteau, il revenait avec un hachoir ou un truc comme ça, quoi. Pour littéralement foutre la trouille à John C. Reilly, qui savait plus où se foutre, voilà.
Mais ça sent. Ouais. De toute façon, il y a plein de scènes où tu sens qu'il se passe quelque chose. L'autre truc qui crève l'écran aussi, parce qu'on en a pas parlé, parce qu'on n'est pas dans le gossip, mais quand même, c'est important, c'est que c'est le film de la rencontre entre Sean Penn et Robin Wright, qui donc va devenir Madame Robin Wright Penn, et ce que Phil Joannou racontait de ça, c'est qu'ils rejouaient leur séquence dans leur vie à eux, quoi. Dans la passion des premiers jours, quand ils avaient une scène d'amour, c'était un jour où ils étaient justement hors plateau en train de se bécoter, et des fois il les surprenait dans le couloir en train de se chier dessus, de s'engueuler comme c'est pas permis, et il se disait cool parce que la scène qu'on tourne aujourd'hui c'est celle où ils se foutent sur la gueule, quoi. Et pareil, ça se sent la séquence où vraiment elle vient chez lui pour lui dire qu'elle est paumée, elle sait plus du tout comment elle s'appelle, quoi, avec tout ce qu'il vient de lui révéler, lorsqu'il lui révèle qu'il est un flic et qu'elle comprend qu'il va foutre ses deux frères en prison, elle sait vraiment plus sur quel pied danser. Quand elle quitte la pièce et qu'elle décide de claquer la porte, elle n'y arrive pas. Tu sais, enfin, la sombre encore là. Enfin, ça sent tellement le vécu, quoi, que ça marche bien, quoi.
Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que donc, en fait, ce que je disais pour reprendre un tout petit peu, c'est qu'on se retrouve dans un film qui est à la croisée entre le film noir. T'as parlé des films de gangsters des années 30.
Et c'est, je pense, important dans ce côté dramaturge aussi, et quelque chose de coup pour le coup d'intellectualisé par Phil Joannou, qui est quand même un cinéphile, faut le préciser. Il fait une référence, notamment dans la scène de gunfight finale, à l'arrivée de Sean Penn dans le bar, à l'ennemi public de William Wellman, en fait, le moment où le son disparaît, en fait, il y a plus aucun son. Ça, c'est vraiment une référence directe, quoi. Donc tous ces films, effectivement, de gangsters des années 30, certains étaient italiens, mais beaucoup étaient irlandais, ben oui, c'est une référence claire. Oui.
Donc t'as ça dans la lumière, évidemment. Enfin, c'est la scène dont on parle avec John C. Reilly, c'est littéralement une scène de film noir. En fait, tu peux pas
dans une ruelle.
Ouais, dans une ruelle avec le type qui se fait ouvrir la gorge, où tu vois finalement buée, en fait, tu vois plus la buée, puis tu vois plus en fait, t'entends plus les gargouilles du mec vraiment le sang, etc. Donc t'as tout un truc en fait autour de ça. Et en fait, moi j'allais dire, même en fait quand je parle de scène, alors évidemment quand tu regardes par exemple une scène où t'as les trois personnages en fait de Sean Penn, de Robin Wright et de Gary Oldman qui se retrouvent à l'église. Mmh. Bon, bah, ça, c'est, enfin, flagrante, en fait, une scène où ils se mettent à prier pour justement le personnage de Sir Riley. Voilà, c'est une scène de dramaturge pure et dure. Mais moi, j'allais dire, justement, la scène où il le retrouve, son cadavre, en fait, sur les docks, et tout le plan séquence, en fait, qui suit quand ils sont en train de s'engueuler, etc., etc., c'est une scène, enfin, tu pourrais la mettre sur une pièce de théâtre, quoi, tu vois.
Les scènes entre Sean Penn et John Turturro sont vraiment les celles qui ressemblent le plus à du théâtre d'avant-garde new-yorkais de l'époque. Ils ont une scène dans un métro, effectivement.
Voilà, avec une mise en place à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un décor où tu sens que c'est une scène qui pourrait se passer dans la rue, c'est une scène qui pourrait se passer dans un cimetière, c'est une scène qui pourrait se passer n'importe où. Et en gros, le truc, c'est que non, comme ça se passe à New York, il faut qu'on prenne un élément de New York pour le montrer. Du coup, c'est la seule scène quasiment de métro, je crois, du film, si je dis pas de bêtises, quoi. Et en fait, du coup, voilà, il se retrouve et c'est une scène qui est complète, qui est fermée là-dedans, effectivement. Et après, tu ressors et tu revois plus le métro du tout, quasiment du film, quoi, je crois.
Et ils sont tous les deux parfaits dans cette séquence-là, parce qu'en plus, ils ont un rôle difficile à jouer chacun dans cette scène-là. Sur le plan encore une fois de l'interprétation, c'est quand même brillant, et aussi il faut quand même rendre justice à à Phil Joannou, qui le mec a 28 ans hein, quand il fait le film, quoi. Faut tenir un casting pareil. Ça veut dire aussi leur laisser la place. Alors lui, il disait que ce qu'il a, parce qu'en fait. Donc on en avait parlé dans 3 heures l'heure du crime. 3 heures l'heure du crime, c'est un film très mise en scène entre guillemets, on en parlait
visuellement ça se voit
voilà.
En fait.
Et c'est à la Sam Raimi presque voilà, ça, ce qui veut dire aussi que
les cahiers du cinéma direct c'est ostentatoire
certainement clipesque.
Voilà.
Mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup de scènes bloquées où les comédiens ont pas la place. Ils doivent suivre leur marque très précisément etc. On sent bien que Les Anges de la Nuit, c'est pas du tout ça. Tu sens qu'il y a de l'improvisation, tu sens que voilà que la caméra de temps en temps court après ces comédiens et qu'il fallait leur laisser cette place-là parce que c'est des gens. Si tu commences à leur donner des marques trop rigides, ils te pètent entre les doigts quoi. C'est des wild horses, des chevaux sauvages quoi si tu veux. Et ça c'est quelque chose qu'il a pris dans sa relation avec YouTube parce qu'en fait il sortait de
son Rattle and film
concert Rattle and Hum où justement il avait dû s'adapter au chaos de cette tournée quoi. Et complètement repenser c'est
à la demande de Bono
à la demande de Bono tout à fait et du coup il est arrivé effectivement sur State of Grace en mode il faut que j'apprenne à laisser la place nécessaire à ces gens là et ça donne des trucs alors après on aime ou on n'aime pas mais il y a des moments c'est effectivement rafraîchissant. Il y a une séquence notamment où Gary Oldman et Sean Penn doivent brûler un immeuble abandonné et après avoir foutu tous les sens au moment où ils décident de jeter l'allumette, ils se regardent tous les deux d'un air complice et ils se mettent à faire un cross quoi, à courir comme des malades dans le couloir en feu et tu vois clairement sur la gueule des comédiens qui sont en train de s'amuser les mecs. Ouais, enfin, ils prennent un risque manifeste mais ils sont en train de se marrer quoi.
Ouais, puis après c'est bon alors Gary Oldman c'est quand même le film c'est Gary Oldman School of Acting quand même, tu vois, enfin c'est vraiment genre niveau intensité. Tu vois moi j'aime bien ce genre de
le mec il sortait des films d'Alan Clark hein, ceci dit. Donc ouais. Si tu
Non mais bien sûr mais et puis bah enfin il était en train de monter en flèche hein, il venait de faire Sid and Nancy quelques temps avant, il était vraiment en fait
à l'époque on se disait qu'il allait crever dans les 3 années qui
Ouais.
Suivent quoi, tellement chacun de ses rôles était incandescent.
Ouais, puis ouais. Voilà, c'est ça. Et puis t'as cette espèce, quand je dis school of acting, je me moque un peu, mais c'est pas vrai, tu vois. Je veux dire, il est super dedans, mais t'as tous ces trucs où quand il fume une clope, tu sens que en fait il sait qu'il prend une pause avec sa clope où il va pas la fumer parce qu'en fait quelqu'un va lui répondre parce qu'il va avoir une réaction et du coup tu sens qu'il se dit ah ça au montage les gens ils vont pouvoir travailler avec et tout ça etc. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui sont voilà. Mais après c'est ce que tu dis en fait, ce qui est vrai c'est que le film il est là où il fonctionne vraiment pour moi, c'est qu'il laisse rentrer la vie, c'est-à-dire que ça en fait c'est un film qui aurait pu être extrêmement lourd, extrêmement comment dire pathos en fait dans le pathos en fait qui ramène, qui traite quand même de choses encore une fois, enfin la tragédie grecque c'est jamais été très léger quoi. Léger, ouais. Et en gros c'est pas tant que le film soit léger, mais c'est qu'il est vivant. C'est-à-dire sur plein de moments il y a tu te rappelles des personnages secondaires, il y a ce personnage en fait d'homme de main d'Ed Harris qui est Nicholson quoi, qui est super en fait. Alors Nicholson c'est le nom du personnage, je précise que c'est pas Jack Nicholson qui joue le rôle quoi. Mais en gros, ce moment où il vient buter un barman, en gros, t'as la scène qui est brutale, c'est une scène de film de gangster, et en fait, le détail qui tue.
C'est les cacahuètes.
Ouais, hein. il prend une poignée de cacahuètes et il se barre, quoi, tu vois, et tu te dis, mais c'est un enculé. c'est vraiment une ordure, le mec, quoi, parce que c'est juste ce détail, en fait. Où tu dis en fait il en a rien à foutre quoi, tu vois, et ça c'est fort en fait, c'est des trucs, c'est des petits détails en fait dont tu te rappelles. Faut peut-être qu'on parle
sur la mise en scène en fait. C'est quand même un équilibre entre justement laisser la place nécessaire aux comédiens et quand même faire de la mise en scène. Moi j'ai le souvenir d'un plan qui m'avait marqué à l'époque parce que j'étais jeune et c'était une époque où je bouffais du cinéma classique et du John Ford notamment. Et dans la scène d'église dont tu parlais tout à l'heure, donc en gros ils sont à la recherche du personnage de Gary Oldman qui a disparu et ils savent où le retrouver et donc ils le retrouvent à l'église. Et quand on arrive sur ce plan où ils rentrent dans l'église, notre première réaction c'est de se demander comment un fou furieux peut se retrouver à prier dans une église quoi. Et on a donc ce travelling
Le Catholic Guilt, comme on
alors,
dit.
Alors, voilà, mais le truc, c'est qu'on a ce travelling qui court le long des chaises alors qu'ils sont en train de s'approcher de lui. Et lorsqu'on arrive au niveau de l'allée centrale, on découvre toutes les bouteilles de bière, en fait, qui sont posées à côté. Ça, c'est de la... Pour moi, hein, c'est vraiment de la putain de mise en scène. Quoi. Et c'est un truc que John Ford aurait fait, littéralement.
Et aussi après au-delà de ces choses-là, en fait, tout simplement, enfin des choses. Alors moi, encore une fois, on parle de la perte du langage, même si c'est très finalement. Mais donc on parle d'un film qui a 30 ans, mmh. un peu plus maintenant. Et en gros, pour moi, le cinéma, il y a toujours eu cette notion de la dilatation du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer avec le temps. Mmh. Et en gros, malgré tout. En fait, il te fait, parce qu'il faut qu'on parle de cette scène quand même, c'est la scène finale, quoi, qui est extrêmement cathartique. Mmh. Tu te retrouves avec un gunfight, mais c'est pas que le gunfight, c'est vraiment la mise en place du gunfight, c'est tout, en fait, le côté western, presque.
En fait,
c'est
ouais, le moment, on a deux morceaux de bravoure, on va dire, dans le film, un qui arrive. Je dirais aux deux tiers, qui est cette séquence de suspense où, comment dire, Ed Harris leur a demandé de se tenir prêt si jamais ça allait mal pour lui, parce qu'il a un rendez-vous avec un mafieux italien très important. Et en gros, si vous n'avez pas de nouvelles de moi à 2 heures, vous vous pointez, vous butez tout le monde, quoi.
Et évidemment, en face, Gary Oldman, c'est le chien fou, ben voilà, il est prêt à partir au quart de tour, quoi.
C'est ça. Et en fait, il s'est rien passé de grave pour le personnage d'Ed Harris. Il est toujours vivant, mais il a pas appelé. Et eux, ils sont en route pour aller. Pour aller au resto, quoi.
Surtout, il peut pas appeler, en fait, c'est ça.
Et donc, il y a toute une construction autour d'un gros réveil à l'ancienne, bien rond, etc., avec des mouvements de caméra hyper élaborés, quoi, où on est à l'intérieur de la pièce où ils attendent, et en travelling, on suit, on passe devant le réveil, et derrière le réveil, on voit le resto en arrière-plan et tout. Donc, bon, tout ce passage-là, c'est un pur passage de plaisir de mise en scène, mais qui, du coup, donne une tension hitchcockienne très claire. Et la séquence de gunfight finale, donc en gros le règlement de compte, là, c'est celle où Sean Penn va mettre les cartes sur la table et dire c'est jouer le tout pour le tout, c'est-à-dire buter tout le monde, où on est chez Peckinpah, et assez littéralement, parce que donc Phil Johannou a littéralement montré la horde sauvage à ses chefs cascadeurs pour leur expliquer ce qu'ils voulaient, notamment au niveau des impacts de balles, de la façon avec laquelle le sang va gicler, etc. Ce qui, moi, je sais qu'à l'époque où on a découvert le film, donc à Cannes, on venait de découvrir l'année d'avant Killer, John Woo, et on en revenait pas que ce soit aussi rapide que de retrouver du John Woo dans un film américain.
C'était pas la référence.
Mais en fait, c'est pas la référence de Phil Johannou. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie qualité. Alors, c'est entre John Woo et, je dirais, le Tsui Hark de Better Tomorrow 3, dans ce goût pour les ralentis extrêmes, justement, sur des objets, parce qu'évidemment ça se passe dans un bar, ce gunfight,
un bar irlandais,
une bonne excuse pour qu'il y ait tout le temps des trucs qui pètent, que ce soit des cacahuètes, des bouteilles, voilà, des choses comme ça, du verre. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression de voir un final de film hongkongais.
Alors il y a ça, mais il y a aussi un détail, en fait, qui est quand même hyper important, c'est que c'est monté en intervalle, en fait, avec la parade de Saint-Patrick,
ouais.
Voilà, qui est quand même un événement hyper important, donc pour la communauté irlandaise de New York, quoi. Et en fait, c'est un truc qui est chaque année. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque et tout. Et en gros, tout est monté. Comme une espèce de procession funèbre, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça qui est assez, c'est ça qui donne aussi le ton du film. C'est-à-dire que le film se termine sur ce plan, en fait, de Sean Penn qui s'est pris des balles partout et tout ça, etc., etc. Et tu connais pas son sort, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer, en fait, à ce moment-là, quoi. Mais disons que, du coup, ça peut même être une mise à mort pour lui s'il y arrive pas, en fait, voilà. Mais le truc, c'est que, enfin, je dis ça, c'est littéral, évidemment, dans le film, mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, ça donne un ton qui, pour moi, c'est là aussi où ça le rapprochait de John Woo. C'est-à-dire que, parce que John Woo, il y a toujours eu, en fait, ce mélange entre la façon d'exacerber les sentiments et en même temps, en fait, de jouer avec le fameux catholique guilt dont je parlais, enfin le catholique guilt, c'est-à-dire la culpabilité, effectivement, catholique, quoi, de base.
On reprécise que John Woo est catholique, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en fait, t'as tout ce truc. C'est pour ça, à mon avis aussi, qu'il y avait une espèce d'impression rentrer dans la logique, en fait, interne des personnages, quoi. Ce qui est important, en fait, chez John Woo, parce que c'est pas juste des gunfights pour des gunfights, c'est des gunfights, en fait, qui exacerbent leurs sentiments, quoi. Donc là, c'était un peu cette logique-là, donc je comprends ce que tu voulais dire, mais effectivement, ça arrive très très vite. Le mec qui a vraiment fait rentrer John Woo, entre guillemets, enfin, le style de John Woo dans le cinéma américain, c'était Joel Silver, hein. C'était plutôt lui qui allait chercher
directement à la source, bien voilà. Sûr. Mais c'est vrai que, donc, du coup, ça montre à quel point aussi le film se distingue de tous les thrillers ou films de gangsters qu'on peut voir à cette époque-là, en 90, quoi. Vraiment, à tout point de vue, il n'y a pas grand-chose qui lui fait concurrence, et je pense que Enfin, voilà, je suis étonné qu'en fait qu'aujourd'hui il soit pas systématiquement recommandé dans des listes ou des trucs comme ça de, je sais pas moi, les meilleurs films que vous n'avez jamais vus, le meilleur film sur, voilà, enfin, la communauté irlandaise américaine, elle a pas grand chose qui la représente dans le cinéma américain de ces 30 dernières années, quoi. Si tu veux, c'est pas Copland qui va te servir de bannière.
Alors déjà, c'est génial Copland, donc tout calme, ok. Voilà, mais en plus, enfin, c'est pas vraiment un film sur ça, Copland. Ouais. En fait, c'est pas vraiment un film sur les Irlandais. Le truc, c'est que non, moi, je pense, comment dire, et puis Copland, c'est pareil. En fait, comme il y a un casting de malade, c'est un film qui arrive à peu près encore à passer le temps. Il y a un réalisateur derrière et tout. Non, là, le truc, en fait, qu'il faudrait rajouter peut-être, parce qu'on n'en a pas trop parlé, tu l'as évoqué très rapidement au début, mais il y a quand même un autre nom au casting qui est quand même assez énorme, c'est Ennio Morricone.
Ennio Morricone, ouais.
Voilà, qui est dans sa phase, je trouve, alors tu vas peut-être me corriger parce qu'on n'est pas sur Total Tracks, mais en fait, qui est un peu dans sa phase Les Incorruptibles.
En fait, non, il est plutôt dans sa phase post-mission.
Ah oui, ouais, alors c'est vrai qu'il a repris des thèmes et tout.
Le truc avec Morricone, hein. C'est que sa méthode de travail était, comment dire, il faisait un peu il imposait ses règles, il avait raison, il pouvait se le permettre. En gros, il fallait se déplacer jusqu'à chez lui, hein. Il était à Rome.
À Rome.
Donc ça voulait dire qu'effectivement Johannou et son équipe sont allés le voir là-bas, et son truc à lui, c'est que c'est pas il compose pas à l'image. T'arrives, tu lui montres le film, et après il te propose 3 ou 4 thèmes et il te demande de choisir là-dedans. Et ça arrivait souvent, il faisait ça avec tout le temps, avec Verneuil, avec tous les autres, il faisait ça. Et effectivement, sa grande œuvre des années 80, ça a été Mission. Et il a beaucoup réutilisé ce fameux hautbois dans les films ultérieurs, que ce soit donc Outrage, dont on a parlé tout à l'heure, ou effectivement State of Grace. Donc il y a beaucoup de renvois musicaux entre State of Grace, Outrage et Mission. Mais je soupçonne aussi Morricone d'avoir utilisé beaucoup de trucs qu'il avait composés pour Mission, mais qu'il n'a pas utilisé.
Apparemment, c'est pas officiel, je sais pas, c'est officiel, mais en tout cas c'est connu, quoi. Mais il y a aussi
le film au départ, ça devait être U2, ouais. Puisque il sortait de Rattlesnake.
Ce que j'allais te dire, ouais. Par rapport, tu me disais les Irlandais sont pas trop représentés, il y a quand même quelques films, hein, je veux dire, mine de rien, Au nom du père, ce genre de film, et le cliché à l'époque, en fait, du film hollywoodien qui traitait des Irlandais, c'est que t'avais au minimum une chanson de YouTube. Mais au minimum du minimum, quoi.
Il y en a une,
hein. Ouais, non, mais bien sûr, bah, évidemment. Et puis, à plus forte raison, puisque le mec a bossé avec eux. Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que ça devenait presque, tu vois, on a fait un podcast sur Blown Away. Bon, bah, voilà. Tu vois, t'en as au moins 2, je crois. Donc, en fait, c'est un peu, ouais. Non, les Irlandais sont un peu représentés.
Non, mais je pense que la musique de Morricone, elle est plus là par rapport au, bah, la thématique du film.
Ouais, bien sûr.
Le film, et notamment le titre, hein, State of Grace,
ouais,
État,
ouais,
de Grâce. Donc, d'avoir la musique de Mission sur un film qui s'appelle État de Grâce, c'est pas non plus complètement.
Ouais, et puis, en fait, alors, State of Grace, c'est lié, enfin, État de Grâce, c'est lié au monologue final de Sean Penn.
Qui a été écrit par David Rabin.
Ouais, qui a été réécrit, qui donne aussi une constance, en fait, une espèce d'explication du fonctionnement du personnage, quoi, de la raison pour laquelle il revient, en fait, dans ce quartier-là. Pour qu'elle, voilà, et c'est assez touchant, en fait. Mais alors, le truc avec Morricone aussi, c'est qu'apparemment, en fait, Johannou raconte aujourd'hui qu'il a beaucoup bossé avec lui, mine de rien. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une espèce de méthodologie où il avait 4-5 thèmes et il s'est dit, bon, je vais lui faire écouter, il va choisir. Et en gros, t'as Johannou qui a fait, ouais, mais est-ce qu'on peut mélanger, ouais, celui-là et celui-là? Et apparemment, en fait, c'est un des trucs qui fait que les deux ont plus ou moins accroché sur le travail, parce qu'ils ont bossé en quand même 2-3 semaines ensemble, en fait, derrière, à Rome, chez Morricone, ce qui est quand même, faut le préciser, parce que tu pourrais effectivement te dire qu'un mec comme Morricone, il va bosser dans son coin, surtout à ce moment-là de sa carrière. On sait qu'à l'époque de Léon, on l'a dit dans le podcast sur Sergio Leone, il composait en avance, en fait, avant même que le film soit tourné. Là, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que malgré le fait que Johannou soit quelqu'un qui avait à l'époque 28 ans,
ouais,
en fait, il pouvait quand même se retrouver dans une collaboration, une réelle collaboration, en fait, d'écriture, hein, mais de.
Il a vu le film, et même s'il parlait pas une goutte d'anglais, et qu'il avait besoin d'un traducteur pour comprendre un peu ce qui se passait à l'écran, même si tu comprends pas ce que les personnages disent, tu vois bien que t'as des putain d'acteur à l'image, quoi. Ne serait-ce qu'en lisant les visages, t'as un film, quoi, déjà. Donc, je pense.
Et que tu sens l'intensité, quoi, qu'il arrive, en fait.
Je pense que Morricone a été sensible à ça, tout simplement, parce que sinon, il aurait envoyé chier un mec de 28 ans qui vient le voir. En mode composer la musique de mon film que j'étais me traquer avec avec des groupes irlandais.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fous là, quoi?
La musique moderne, hein, tout bêtement. Alors qu'en fait, je sais pas
mais
du tout le fonctionnement
de Morricone.
Elle
contribue à élever un film qui est déjà élevé. Hein, mais je parlais tout à l'heure de cette séquence de suspense avec le réveil matin. La musique de Morricone sur cette séquence-là, elle est indispensable, hein, parce que comme ça fait partie des moments.
Mais c'est là où moi ça me fait penser aux Incorruptibles.
Et notamment tout le travelling.
Ouais,
ils marchent dans la rue avec leur flingue cachée, effectivement, ça pourrait être une séquence des Incorruptibles.
Ouais. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est aussi une des références de Juanou.
Oui.
C'est-à-dire que dans les séquences, en fait, qu'il a beaucoup étudié pour reprendre, il y a la scène, en fait, dans les Incorruptibles,
le gunfight
dans les escaliers qui reprend le cuirassé Potemkin.
Ouais.
Mais donc cette espèce de logique de dilater le temps, en fait, dont je parlais tout à l'heure, voilà, c'est un truc qui existe dans ce film-là, quoi, et qui moi je trouve, en fait, bon, encore une fois, on n'est pas chez De Palma, c'est pas la même logique, c'est pas aussi ciselé, quoi.
Ouais, c'est pas chirurgien.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, en fait, il y a vraiment cette volonté de plonger le spectateur dans une ambiance, et qui est pour moi un truc qui me manque, en fait, aujourd'hui au cinéma, des séquences de ralenti entières, si tu veux, mais qui sont pensées comme telles, pas juste, tu vois, parce que bah tiens, on avait la caméra B qui tourne au ralenti, donc on va utiliser ces chutes là. C'est vraiment, en fait, un truc qui je trouve se perd complètement aujourd'hui dans le cinéma, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi.
On est plus dans un film, encore une fois, d'interprète et d'acteur pardon, de jeu d'acteur, mais avec une mise en scène qui vient les soutenir. Ça veut dire que cette longue séquence suspenseful où Ed Harris est devant ce parrain italien
Joe Vitarelli, donc
qui, comme tu l'as bien décrit tout à l'heure, une boule de graisse sur
une tête de granit sur une boule de graisse.
Voilà, une tête de granit sur une boule de graisse, bah, c'est parfait. Voilà, un mec qui en impose, quoi, qui te fout une trouille pas possible, et qui est en train de parler des bonnes manières à Ed Harris, et Ed Harris qui est tellement
toute relative,
que,
hein, les bonnes manières.
Non, mais Ed Harris qui est super mal, et qui se met à grignoter un truc qui est sur la table, quoi. Il se met à grignoter, et tu vois le gros plan macro sur les miettes de pain qui tombent sur la table, alors que le mec, il est en train de lui parler des belles manières, et lui, il est en train de jeter les miettes de pain par terre comme un.
Et d'ailleurs, il lui dit de foutre pas le bordel.
Donc, t'as le jeu de comédien, c'est super intense, le visage de Thierry et la gueule de gamin pris la main dans le sac d'Ed Harris, quoi. Mais ce plan macro, il est important. Enfin,
ouais, bien sûr.
C'est le plan macro où tu dis, oh putain, des miettes de pain, merde. Ce qui est un détail à la con, mais, ouais, mais dans ce contexte-là, qui fait sens, quoi.
Et qu'est-ce que je voulais dire? On va peut-être boucler, du coup.
Ouais.
Mais alors, boucler sur une note un peu triste, parce que finalement, c'est le dernier grand film de Phil Joannou, faut le dire, parce que le film d'après, c'est un film, alors, que je pense que tous les deux on a vu, justement parce qu'on avait vu Les Anges de la Nuit à l'époque.
Exactement.
On est allé le voir en salle.
C'est exactement ça. On a vu Les Anges de la Nuit, et moi, c'est clair, hein, je le dis, quand j'ai découvert le film à Cannes, la question qu'on avait avec Nicolas, c'était, mais ce mec-là, il va falloir le suivre de très près. C'est forcément un mec important. Et donc, bah, du coup, c'est là qu'on a découvert 3 heures l'heure du crime, qui est totalement différent, mais qui nous a aussi rendu extatiques.
Moi, je l'ai vu bien après. Mais...
Et on s'est dit, le mec, il est capable de faire, entre guillemets, du Sam Raimi, tu vois, et je sais même pas avec qui on pourrait comparer.
Ouais, bon, disons du Scorsese, du machin, mais même si c'est pas tout à fait ça.
Voilà. C'est quand même fou, quoi. Et effectivement, son film de studio de Major avec... comment s'appelle
l'antimatière du cinéma.
Du cinéma, voilà.
Richard Gere.
Richard Gere.
Ouais.
Et la très jolie Kim Basinger, mais bon, la pauvre.
Kim Basinger, voilà. Et Uma Thurman, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le.
Ouais, tout
le
à
film.
Fait, ouais. Qui était, d'ailleurs, on n'a pas parlé parce qu'on n'est pas trop gossip, mais Uma Thurman était maquée avec Phil Joannou, qui a eu la mauvaise idée de lui présenter Gary Oldman. Qui en gros l'a chopé direct, quoi.
Et... graphique, pas trop gossip, Jumi, mais gossip quand même. Voilà.
Écoute,
non mais c'est surtout, en fait, bah, parce que faut boucler.
Ouais.
Gary Oldman, qui devait d'ailleurs être dans, enfin, il avait eu quelques scènes dans Sans chaud pour mordre de sang froid, mais surtout Sans chaud pour mordre de sang froid. En fait, à un moment donné.
Exercice Hitchcockien à la Kenneth Branagh de mes couilles.
Voilà, tu vois, c'est vraiment un truc où tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le mec qui a fait qui a fait Les Anges de la Nuit, il est où le mec qui a fait 3 heures l'heure du crime, quoi, tu vois. Donc du coup, voilà. Et après, il y a eu Evan's Prisoner avec, comment dire, qui se veut pour le coup, en fait, être de nouveau un film noir. Mais cette fois moite, vraiment dans la logique des Elmore Leonard, des mecs comme ça, vraiment des trucs en fait qui se passent sous le cagnard et tout, avec Alec Baldwin, et qui est aussi dans mon souvenir, peut-être ça mériterait d'être revu pour voir, mais en fait c'était un ratage à l'époque, quoi. Et du coup, bah, c'est quelqu'un qu'on a un peu perdu. Il est parti faire un film avec The Rock qui s'appelait Gridiron Gang. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est perdu, je pense, après dans le truc. Il le dit lui-même d'ailleurs, que en gros, pas sur ces films là forcément, mais il le dit que en tant que cinéphile, en gros, il se faisait une idée de ce que ça voulait dire d'être réalisateur de cinéma, et que, en fait, quand il est arrivé dans le milieu, dans le métier, il s'est rendu compte que c'était vraiment complètement autre chose, quoi. Que le milieu du cinéma était vraiment, extrêmement complexe, voilà, où les places étaient très chères, quoi. Et du coup, bah, je pense que ça explique peut-être aussi la perte, en fait, voilà, quoi. Puis l'énergie, mine de rien, quand t'as 30 ans, tu veux tout donner, c'est une chose, mais c'est vrai que plus tard, en vieillissant.
Oui, je pense qu'il s'est quand même bien saigné les veines sur un film comme State of Grace, ouais. Et ça se voit. Voilà, on invite tout le monde à regarder ça.
Les
si
Anges
si
de
vous
la
voulez
nuit.
Vous rappeler de ce que c'est que le cinéma.
C'est sorti en Blu-ray chez nous. Donc voilà, bah merci Rafik.
Merci Steph.
Merci Alain, merci à la technique qui me souffle toujours quand je perds mes mots, qui me souffle toujours les bonnes phrases, quoi. Merci à vous qui nous suivez. Qu'est-ce que je pourrais dire, en fait? Est-ce qu'il faut que je dise, je regarde Alain Mercier, hein, excusez-moi, il est hors champ. Est-ce qu'il faut que je précise, en fait, encore une fois, qu'on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, qu'on a un Tipeee, on a plus de Patreon? Si on a toujours le Patreon, Alain Mercier?
On a le Patreon, c'est un pilote automatique.
Voilà, il y a Kiss Kiss Bang Bang, tout ça, etc. pour nous soutenir. Il faut que je dise tout ça à la Mercier.
Est-ce que
tu peux le dire, toi?
Ça y est, tu viens de le faire.
Ah, je viens de le faire. Bon, bah écoute, voilà.
Et dans les contreparties, il y a de la Guinness, un truc comme ça, non?
Non, il n'y a pas de ça. En plus, il commande. Tu sais, il y a des erreurs de continuité dans le film. Il commande de la Guinness et il se retrouve avec du whisky.
Ouais.
Tu vois, donc comme quoi, tu vois, Fidjoano, on a beaucoup exagéré, quoi. Enfin, voilà. Bon, merci à tous. Et puis, je sais pas si on aura un aussi bon film la prochaine fois, Rafik. Je suis pas sûr. Voilà. Pas sûr. On verra bien. Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.